Avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À la une ce matin, le jeu d'équilibriste du gouvernement. Comment redonner du pouvoir d'achat aux Français avec 6 milliards d'euros de baisse d'impôts annoncées, tout en maîtrisant le déficit public sous la barre des 3%, comme le veut Bruxelles. Le tout dans une période où la croissance se tasse. Emmanuel Macron peut-il tenir ses promesses face aux Français? Analyse dans un instant.
Et puis à la une, à l'étranger, les Britanniques encore et toujours divisés sur la question du Brexit. Chez les conservateurs au pouvoir, mais aussi chez les travaillistes, leur leader, Jeremy Corbyn, n'appelle pas à un second référendum, mais il pourrait plier face à la majorité de son parti réunie en congrès à Liverpool.
En Russie, une défaite électorale rarissime pour le parti au pouvoir de Vladimir Poutine, sur fond de colère contre une réforme sur les retraites. Les États-Unis et la Chine s'enlisent dans la guerre commerciale avec l'entrée en vigueur ce matin de nouvelles taxes douanières sur 260 milliards de dollars de marchandises chinoises et américaines.
Et puis, dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, mineurs isolés dans la rue, comment sont-ils pris en charge ? On posera la question à l'avocate Catherine Delanoë-Daoud.
L'heure des comptes a sonné. Présentation aujourd'hui en Conseil des ministres du projet de loi de finances 2019. L'exécutif veut à la fois maîtriser le déficit public tout en baissant les impôts. Une recette budgétaire assortie entre autres de 4500 suppressions de postes de fonctionnaires, d'une baisse des contrats aidés, d'un quasi-gel des pensions de retraite, des allocations familiales et des APL, mais aussi d'une baisse de 6 milliards d'euros des impôts. C'est ce qu'indique le gouvernement qui veut redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Avec la fin progressive de la taxe d'habitation et la suppression des cotisations sociales chômage et maladie sur les salaires, deux mesures phares mises en place l'an dernier. Est-ce l'occasion pour l'exécutif de faire taire les accusations de présidence des riches ? L'analyse de Marie Viennot.
En supprimant l'impôt sur la fortune, sur le capital financier et en créant un nouvel impôt, flat tax, moins complexe et plus avantageux sur les placements, le gouvernement voulait encourager, je cite, « l'investissement privé dans les projets innovants et générateurs des emplois de demain ». Ces mesures auront coûté 4,5 milliards d'euros de rentrée fiscale en moins. Pour quel impact ? Quels investissements en plus ? C'est trop tôt pour le mesurer, disent les organisations patronales qui réclamaient hier la mesure. Mais d'effet, il n'y aura jamais, prédit pour sa part Xavier Timbaud, économiste à l'OFCE.
Malheureusement, cette politique, elle va relocaliser des riches en France, mais elle ne va pas relocaliser des activités en France. Il y a un seul cas dans lequel ça peut changer un petit peu les choses, c'est pour les gens qui sont non seulement très très riches, mais qui sont en plus entrepreneurs. Mais l'impact sur l'investissement et sur l'activité en France de cette catégorie très particulière d'entrepreneurs très riches qui pensaient se délocaliser est susceptible d'avoir peu d'effet sur l'investissement et sur l'activité en France. Contrairement à ce que Bruno Le Maire disait pour vendre cette mesure et la rendre plus acceptable.
L'an dernier, Bruno Le Maire avait promis des indicateurs pour suivre l'impact de ces allègements d'impôts. Ce sera le rôle du Parlement d'y veiller. Autre montant conséquent du budget de l'an passé, la hausse de quasi 4 milliards d'euros de la fiscalité énergétique. S'ajoutait à cela une prime à la conversion de son véhicule, une prime pour la transition écologique, mais rien qui soit à la hauteur des enjeux, analyse aujourd'hui Marie Chéron de la Fondation pour la Nature et l'Homme.
Il y avait une volonté de faire efficace. Maintenant, on a une urgence de la situation environnementale qui fait qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens. Et il faut avoir un discours politique beaucoup plus clair, parce que le gouvernement, pour l'instant, n'est pas encore assez clair sur son implication et donne davantage l'impression de vouloir taxer davantage sur le dos de l'écologie plutôt que de vraiment répondre à une demande sociale.
Il y aura encore, dans le budget 2019, une augmentation des taxes sur les produits issus du pétrole, a déjà prévenu le Premier ministre. Et au-delà, qu'y aura-t-il pour le climat ? Nous verrons aujourd'hui si la démission de Nicolas Hulot a aussi créé un électrochoc au ministère des Finances.
Et le successeur de Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique, François de Rugy, a confirmé hier qu'une vignette pour les camions étrangers était à l'étude pour financer l'entretien et la rénovation des infrastructures routières. Plus de 13 milliards d'euros d'investissement promis dans la loi d'orientation sur les mobilités, les camions français peut-être aussi concernés. On y revient dans le journal de 7h30. Si ce pouvoir-là échoue, qui peut prendre la place ? Qui peut offrir une perspective ? Question presque rhétorique posée hier par François Hollande, l'ancien président socialiste, était à Tulle hier dans son ancien fief corrézien pour la fête de la Rose. L'occasion pour François Hollande de laisser planer le doute sur son retour dans l'arène politique et d'égratigner Emmanuel Macron. Et je cite les décisions qu'il prend, injuste, des comportements qualifiés d'excessifs. François Hollande qui ne rend pas service à la France, a estimé hier le secrétaire d'État français aux affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, revenant sur la polémique autour de l'achat par l'Inde de 36 avions Rafale en 2016. La France n'a pas eu le choix du partenaire indien de Dassault, a affirmé à Mediapart François Hollande, selon qui c'est le gouvernement indien qui a proposé le groupe Reliance, dont le patron Anil Ambani est proche du Premier ministre indien. Narendra Modi est accusé aujourd'hui par l'opposition indienne d'avoir favorisé un conglomérat privé au détriment d'une entreprise publique. À 8 mois des élections européennes, le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a annoncé hier qu'il conduirait une liste d'union pour mai 2019 et il a appelé les dirigeants du Rassemblement National de Marine Le Pen et du parti Les Républicains à se joindre à lui. Le patron des LR, Laurent Wauquiez, se rend à Berlin aujourd'hui pour rencontrer Angela Merkel. Dans le camp Wauquiez, on affirme que la chancelière allemande ne veut pas s'enfermer dans le face-à-face créé par Emmanuel Macron entre les progressistes et l'extrême droite. L'extrême droite allemande, dont le chef du renseignement intérieur est accusé d'être proche. Nouvelle réunion de crise hier soir pour trouver une porte de sortie au très controversé Hans-Georg Maaßen. La correspondance à Berlin de Ludovic Piétenu.
Les alliés de la coalition avaient inventé la semaine passée la sanction promotion et les sociodémocrates qui réclamaient la tête du chef du renseignement s'étaient retrouvés bredouilles et plus démonétisés que jamais. Maaßen devenait secrétaire d'État auprès de son ami, le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer. Il voyait son salaire augmenter de 3000 euros par mois et prenait la place du seul membre SPD du cabinet. Le camp social-démocrate a grondé très fort contre sa chef, Andrea Nahles. 250 personnalités de la culture ont exigé cette fois le départ du ministre de l'Intérieur qui s'est dit partant pour renégocier. Tout le monde a tenté de sauver son honneur hier soir dans cette histoire. Hans-Georg Maaßen reste donc au même salaire. Il hérite d'un poste de conseiller spécial auprès du ministre de l'Intérieur et ainsi ne prend la place de personne. L'honneur est sauf peut-être, mais la crédibilité politique de cette coalition est encore un peu plus entamée.
7h06 sur France Culture, c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Elle aussi a du mal à contenir les assauts et critiques au sein de sa coalition.
La première ministre britannique Theresa May est sous pression depuis le refus la semaine dernière de son plan pour sortir de l'Union européenne par les 27 à Salzbourg. Le Conseil des ministres à Londres aujourd'hui s'annonce donc houleux. Selon le Télégraphe, la secrétaire d'État au travail et aux retraites pourrait démissionner si aucune nouvelle proposition ne lui était présentée, tout comme la secrétaire d'État au développement international. Pression et tension donc autour de Theresa May avant un congrès de son camp conservateur à partir de dimanche prochain. Et l'ambiance n'est pas meilleure dans l'opposition, sifflée et huée en ouverture du congrès travailliste à Liverpool. Hier, plus de 5000 militants de gauche ont demandé à leur chef de file, Jeremy Corbyn, de soutenir l'idée d'un second référendum sur le Brexit. Antoine Gignot.
Ils ont des t-shirts aux couleurs du parti travailliste, des drapeaux européens, mais leur cible, c'est leur chef. On voudrait continuer à soutenir le parti travailliste, explique Lydia, mais c'est devenu impossible, à moins que Jeremy Corbyn ne se prononce pour un nouveau référendum. Il y a beaucoup de gens ici qui ne voteront plus travailliste. Il faut qu'il le fasse, ajoute Fran. Il est trop mièvre. Regardez le bazar dans lequel nous sommes. Denis précise, son rôle, ce n'est plus seulement de protester, il est chef du parti, il doit arrêter d'hésiter. Car les sondages le montrent, à 86%, les militants de gauche sont favorables à une nouvelle consultation populaire. Martin Yu dirige le mouvement Open Britain à Manchester. Le référendum de 2016, c'est une exception dans l'histoire. On a voté oui ou non sans savoir sur quelle base on se prononçait. Alors, si Theresa May revient de Bruxelles avec un accord commercial, on pourra voter sur un document précis, pas sur des fantasmes. Jeremy Corbyn, lui, évite tout commentaire, mais il promet de défendre la position que prendront les militants pendant le congrès.
Antoine Gignot à Liverpool pour France Culture. Arrêtons-nous à présent sur une défaite électorale rarissime pour le parti au pouvoir en Russie. Dans la région de Khabarovsk, en Extrême-Orient, le candidat de Vladimir Poutine et du parti Russie Unie a été largement battu à 28% contre 70% des voix par le candidat du parti d'extrême droite sur fond de mécontentement lié à une impopulaire réforme des retraites. Le texte discuté aujourd'hui par les députés de la Douma à Moscou prévoit de repousser de 5 ans l'âge de départ à la retraite en échange d'une revalorisation des pensions de 15% en moyenne, insuffisant encore pour les Russes qui se plaignent de la faiblesse actuelle des retraites. 45 millions de retraités vivent dans la précarité, le reportage de Claude Bruyot.
Quand on est retraité en Russie, il vaut mieux avoir une famille généreuse et vivre en ville. Valérie, 66 ans, ancien fonctionnaire, opposé à la réforme, reconnaît que c'est un avantage d'habiter à Moscou.
Je reçois 250 euros de pension grâce au supplément social de la ville de Moscou. Sinon, je n'aurais que 150 euros. Ici, peu importe combien d'années on a travaillé, tout le monde reçoit à peu près la même chose.
À 85 ans, Sofia, ancienne musicienne, également moscovite, soutient, elle, la réforme des retraites de Vladimir Poutine.
J'ai 300 200 euros. Mon petit-fils qui est en France m'aide. J'ai confiance en Poutine, il est très courageux. On l'aime vraiment.
C'est beaucoup plus dur pour Maria, 63 ans, qui vit dans un village à 2 heures de route de Moscou.
Dans le village où j'habite, je paie le gaz 8 centimes d'euros le mètre cube. Et en hiver, juste pour chauffer au gaz ma maison, ça me coûte la moitié de ma pension. Poutine est la créature des Américains. On vient seulement de le comprendre. Il se fout de nous. Il dépense énormément pour la Syrie. À quoi ça nous sert cette guerre en Syrie? On n'a vraiment pas besoin de ça.
Maria dit encore qu'elle vient souvent participer aux manifestations de l'opposition dans la capitale russe, la seule façon pour elle d'évacuer son mal-être.
D'après des instituts de sondage, 90% des Russes sont opposés à la réforme des retraites de Vladimir Poutine. Le président russe contesté par ailleurs à l'étranger, alors que le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, opposé à l'annexion de la Crimée et emprisonné en Syrie par la Russie, est en grève de la faim depuis 134 jours maintenant. Oleg Sentsov pourrait devenir citoyen d'honneur de la ville de Paris sur proposition cet après-midi de la maire socialiste Anne Hidalgo. Un acte symbolique soutenu par le sénateur socialiste David Assouline.
Paris est reconnu par son histoire et par ses prises de position régulières comme un phare de la liberté d'expression et de ce combat. Je pense que c'est un moment très important. Il faut des actes pour rompre un silence, pour rompre aussi un isolement sur quelque chose qui n'est pas banal, parce que être emprisonné pour un délit d'opinion ne doit pas être banalisé et il faut absolument affirmer cette solidarité internationale. Le cas d'Oleg Sentsov est exemplaire de ce qu'on ne peut pas accepter. Et Vladimir Poutine doit entendre que ça ne passe pas comme une lettre à la poste. On ne peut pas se déclarer démocrate et interner des gens parce qu'ils ont une opinion différente.
Le sénateur socialiste David Assouline au micro de Margot Steve. À suivre dans le journal de 7h30, de nouvelles taxes douanières américaines et chinoises sur plus de 260 milliards de produits d'importation. On y revient donc dans un peu plus d'un quart d'heure. Le temps de ce lundi 24 septembre, la grisaille devrait laisser la place à de belles éclaircies. Les températures sont en baisse, comprises au meilleur de la journée, entre 14 et 19 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, 19 à 23 dans le sud-ouest, 23 à 29 degrés dans le sud-est.